Monsieur l'abbé Simoulin, recteur du séminaire d'Écône, va nous entretenir maintenant des lettres des évêques adressées au pape Jean XXIII. Vous savez que les évêques du monde entier étaient invités de présenter leurs desiderata pour un futur concile. Et alors un certain nombre, pas tous bien sûr, ont répondu. Et on peut certainement dire qu'il y a eu des lettres, au moins un certain nombre, excellentes, qui manifestaient, n'est-ce pas, vraiment un désir de vrai pasteur. Mais je ne voudrais pas, bien sûr, anticiper, et je laisse la parole à M. l'abbé Simoulin.
Excellence, chers confrères, mesdames, messieurs, tous nous savons, du moins les plus âgés d'entre nous, nous nous souvenons de ces journées de 1959-1960, cette ambiance très charismatique où le clergé se sentait à la veille d'une grande libération. On avait l'impression de sortir d'une ère de ténèbres pour entrer enfin dans cette nouvelle Pentecôte que promettait le pape Jean XXIII. Ce concile qu'il nous présentait comme étant non pas le fruit de longues considérations, mais une sorte de fleur spontanée d'un printemps inattendu. Quale fiore di inaspettata primavera. Une inspiration du Très-Haut en vue d'une nouvelle Pentecôte. Et c'est dans ces dispositions très charismatiques que Jean XXIII s'est donc adressé le 25 janvier 1959, après la cérémonie de clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens à Saint-Paul hors les murs, aux 17 cardinaux présents à ces cérémonies de clôture, en leur disant, c'est avec un certain tremblement d'émotion, mais en même temps avec une humble résolution dans notre détermination, que nous prononçons devant vous le nom d'une double célébration que nous proposons, un synode diocésain pour Rome et un concile œcuménique pour l'Église universelle. Plus tard, il aimera rappeler cet événement, et souvent il y reviendra, notre voix tremblée d'émotion, et il évoquera même sa surprise devant la réaction des cardinaux, des 17 cardinaux présents. Humainement, dit-il, on aurait pu penser que, après avoir écouté notre allocution, les cardinaux allaient se serrer affectueusement autour de nous pour nous exprimer leur approbation et leurs vœux. Ce fut au contraire un impressionnant et respectueux silence. Un impressionante e devoto silenzio. Le 29 janvier, le cardinal Tardini, secrétaire d'État, envoyait à tous les cardinaux. Les cardinaux, le collège cardinalis comptait 74 cardinaux à l'époque. Donc le cardinal Tardini envoie à tous les cardinaux le texte de cette allocution. Cette allocution comportait un peu plus loin ce vœu du pape. Il demandait de chacun des cardinaux une parole cordiale et confiante qui nous assure des dispositions de chacun et nous offre aimablement toutes les suggestions touchant la réalisation de ce dessein. Donc le pape attendait une réponse de chacun des cardinaux. Et pourtant, selon les actes du concile publiés, seulement 25 cardinaux répondront à la demande de Jean XXIII. Quelques-uns, sans doute, lui ont fait connaître leur opinion de vive voix dans des rencontres, des entretiens. Mais selon le professeur Alberigo, donc 38 cardinaux ont choisi de demeurer dans ce impressionante et devoto silencio. A l'inverse, il faut, je crois, relever une réponse tout à fait éloquente. C'est celle du cardinal Jean-Baptiste Montigny. Ce n'est pas vraiment la réponse qu'il fit au pape Jean XXIII, mais c'est un article qu'il écrivit. Il n'était pas présent à Saint-Paul hors les murs le 25 janvier, mais le 26 janvier, donc le lendemain même, il rédigeait un écho ambrosien à l'annonce du prochain concile œcuménique qui sera publié par le journal L'Italia le lendemain, le 27 janvier. Donc nous sommes 2 jours après l'annonce du concile sans que l'on sache encore quel sera le contenu, le but, la finalité de ce concile. Les choses ne sont pas encore bien exprimées. Et ce texte est tout à fait intéressant. car il donne, je crois, toute la mesure de ce qu'on pourrait peut-être appeler le degré d'initiation du cardinal Montini au projet de Jean XXIII. Voici ce texte, du moins la plus grande partie, car il est long. L'annonce faite hier par Sa Sainteté Jean XXIII au sujet de la prochaine convocation d'un concile œcuménique retentit avec une telle élévation, une telle puissance dans l'Église de Dieu, dans les communautés chrétiennes séparées, dans le monde entier, qu'il ne serait pas utile d'ajouter notre écho pour que tous, prêtres et fidèles, hommes de pensée et d'action, puissent la recevoir avec attention et émotion. Un événement historique de première grandeur va se dérouler. Non pas grand événement de haine et de terreur, grand de cette terrible grandeur de guerre. Non pas événement de politique terrestre ou de culture profane, grand de cette grandeur éphémère de tant de congrès humains. Non pas événement de découverte scientifique ou d'intérêt temporel, grand de cette grandeur indubitable de tant de faits de notre progrès social, mais un grand événement de paix, de vérité, d'esprit. Grand aujourd'hui pour demain, grand pour les peuples et pour les cœurs humains, grand pour l'Église entière et pour toute l'humanité. Ce concile sera le plus grand que l'Église ait jamais célébré durant les 20 siècles de son histoire. Par la confluence spirituelle et numérique, dans l'unité totale et pacifique de sa hiérarchie. Il sera le plus grand par la catholicité de ses dimensions, embrassant vraiment tout le monde géographique et social. L'histoire s'ouvre devant, sous nos regards, dans des visions immenses et séculaires. La cité sur la montagne et l'Église se tiendra au sommet des pensées et des événements humains, dans une lumière splendide et mystérieuse, et se montrera la gardienne de la parole divine et des destins humains. Le bercail du Christ, l'Église, se présentera rassemblée, unie autour de l'unique vrai pasteur. Il ouvrira ses portes dans une invitation et dans l'attente du troupeau dispersé, prêt peut-être au grand retour fatidique. Rome, capitale politique de notre pays, apparaîtra telle que l'a fête et l'a fait encore la foi catholique de ses grands apôtres Pierre et Paul, capitale spirituelle du monde, et elle répandra sa lumière dans tous les lieux où l'on travaille à l'union des peuples, à la paix sociale, au salut des humbles, au progrès de la justice et de la liberté. Voilà cette réaction, première réaction spontanée, certainement, du cardinal Montini à cette annonce, simple annonce du Concile. Il ajoutait encore, nous sommes sûrs, de par le témoignage de la joie et de l'espérance qui sont nés dans tous les esprits, que le Saint-Esprit souffle dans la voile mystique de la barque de Pierre. Le 17 mai 1959, en la fête de la Pentecôte, rien n'est anodin, est constituée la commission hantée préparatoire qui sera présidée par le cardinal Domenico Tardini, secrétaire d'État, composée de 11 membres, celle-ci, tient sa première réunion le 26 mai, et alors on prévoit d'envoyer une lettre à tous les futurs pères conciliaires. Et il était prévu à ce moment-là de joindre à cette lettre un schéma qui aurait de questions et d'articles sur la base duquel les futurs pères auraient pu justement articuler leurs réflexions, leurs vœux, leurs suggestions. Mais ce projet va être abandonné au profit d'une simple lettre circulaire avec l'approbation de Jean XXIII afin de laisser plus de liberté aux pères consultés. Et une simple lettre circulaire est donc envoyée le 18 juin 1959, invitant simplement chaque évêque et prélat à faire parvenir en toute liberté et sincérité les avis, conseils et vœux que votre sollicitude pastorale et votre zèle pour les âmes peuvent lui suggérer en ce qui concerne les matières et les sujets dont on pourra discuter au cours du prochain concile. La date limite était fixée d'abord au 1er septembre de l'année en cours, donc 1959, mais elle va être reportée devant la lenteur des réponses, la maigreur des réponses, puisque au mois d'août, au début du mois d'août, seulement une quarantaine de réponses seront parvenues. 1600 réponses seront comptées à peu près vers le 30 octobre par le cardinal Tardini, donc la date limite sera reportée finalement jusqu'à la fête de Pâques de l'année 1960. Il faudra même envoyer le 21 mars une lettre de rappel aux retardataires pour que pour qu'on essaie de rassembler quand même plus de réponses que celles qui étaient parvenues jusqu'ici. Et c'est le 5 juin 1960, en la fête de la Pentecôte, toujours la Pentecôte, que Jean 23 met fin à cette période ante-préparatoire et inaugure donc la période préparatoire par le motu proprio Superno Dei Nutum. Peut-être avant de considérer ces réponses, est-il bon, la question a été évoquée par les interventions précédentes, comme de rappeler un peu l'intention de Jean 23, car imaginons que nos évêques qui mûrissent leurs réponses baignent pendant tout ce temps dans un climat spirituel, disons, le pape parle, il intervient de façon incessante, et qu'est-ce qu'ils entendent comme discours du pape? Quelles sont donc les intentions que Jean 23 affirme comme étant les siennes dans la réunion de ce concile? Eh bien, la chose est assez difficile à discerner, à définir avec précision, car il semble même que le pape Jean 23 lui-même ne savait pas trop bien comment les choses allaient tourner, comment elles allaient se présenter, puisqu'il confie même « Un jour, nous verrons bien, dit-il, nous verrons bien lorsque les évêques seront réunis. Le Saint-Esprit sera obligé d'être présent, et nous verrons à partir de ce moment-là. » C'est une pédagogie assez particulière. Malgré tout, on sent très bien que dans les interventions qu'il fait, qu'il a des buts, il a des intentions peut-être un peu secrètes, mais il a comme une intention qui est très claire en tout cas, c'est cette invitation renouvelée aux fidèles des communautés séparées à nous suivre, elles aussi aimablement, dans cette recherche d'unité et de grâce. Et d'ailleurs, l'Osservatore Romano, du 26 et 27 janvier, ne s'y est pas trompé, puisqu'il publie un communiqué annonçant donc la convocation du concile, et il ajoute « En ce qui concerne le concile œcuménique, il n'a pas seulement pour but dans la pensée du Saint-Père le bien spirituel du peuple chrétien, mais il veut être également une invitation aux communautés séparées pour la recherche de l'unité à laquelle tant d'âmes aspirent aujourd'hui sur toutes les parties de la terre. » Il est ici un texte intéressant qui n'a pas été publié, d'ailleurs, par l'Osservatore Romano, qui exerçait une certaine censure, peut-être, sur les propos trop audacieux de Jean 23. Mais le 29 janvier, s'adressant aux curés de Rome, à Saint Jean et Saint Paul, le pape leur confie « Nous ne ferons pas un procès historique. Nous ne chercherons pas à savoir qui avait raison et qui avait tort. Les responsabilités sont partagées. Nous dirons seulement, réunissons-nous. Finissons-en avec les dissensions. » Ce texte n'a pas été publié par l'Osservatore Romano, mais a été conseillé par les journalistes présents, bien sûr, à cette réunion. Néanmoins, l'intention officielle de Jean 23 dans l'encyclique Ad Petri Cathedram, publiée le 29 juin 1959, c'est cette encyclique, qui affirme, qui donne le but officiel du Concile, le but principal du Concile, consistera à promouvoir l'accroissement de la foi catholique, un salutaire renouveau de la vie morale du peuple chrétien et l'adaptation de la discipline ecclésiastique aux besoins et méthodes de notre temps. Voilà le but officiellement déclaré du Concile. Mais, continue Jean 23, ceci constituera sans aucun doute un merveilleux spectacle de vérité, d'unité et de charité, dont la vue sera aussi, pour ceux qui sont séparés de ce siège apostolique, nous l'espérons, une suave invitation à rechercher et à trouver cette unité pour laquelle Jésus-Christ adressa à son Père céleste une si ardente prière. Donc l'intention est bien celle-ci. Une autre intervention de Jean 23, le 3 août, qui affirme encore peut-être de façon plus claire cette intention, de refaire, de rendre à l'Église son visage, qu'elle avait sans doute perdu, afin de la rendre plus séduisante aux frères séparés. C'est le 3 août, réunissant les dirigeants de l'Action catholique, il leur parle du Concile. « Nous réunirons donc le Concile, et nous entendons le préparer en ayant en vue ce qu'il est le plus nécessaire de renforcer et de revigorer dans l'union de la famille catholique. Puis, lorsque nous aurons accompli cette formidable tâche, en éliminant ce qui, sur le plan humain, pouvait faire obstacle à une progression plus rapide, nous présenterons l'Église dans toute sa splendeur, sine macula et sine ruga. Et nous dirons à tous les autres qui sont séparés de nous, orthodoxes, protestants, etc., voyez, frères, c'est là l'Église de Christ. Nous nous sommes efforcés de lui être fidèles, de demander au Seigneur la grâce qu'elle reste toujours telle qu'il l'a voulu. Venez, venez. Voici que le chemin est ouvert pour la rencontre, pour le retour. Venez prendre ou reprendre votre place, laquelle est, pour un grand nombre d'entre vous, celle de vos vieux pères. Oh, quelle joie, quelle prospérité, même dans l'ordre civique et social, ne peut-on pas attendre pour le monde entier de la paix religieuse de la famille chrétienne reconstituée. L'ambiguïté, l'équivoque dont on nous parlait ne date pas du Concile, elle est bien antérieure au Concile, déjà dans l'intention, dans la finalité de ce Concile, cet équivoque est là et elle demeurera jusqu'à la fin, malgré les efforts même du Père Béat, qui sera fait cardinal quelque temps après. Le 9 novembre 1959, il éprouve le besoin d'intervenir pour essayer de clarifier les choses. Que dit-il ? Le Concile de Trente fut envisagé comme un concile d'union. Sera-ce le cas du prochain concile ? Non, ce n'est pas l'intention du Saint-Père. Toutefois, le concile, bien que son but ne soit pas de réaliser tout de suite l'union de tous les chrétiens, veut et doit préparer cette union. Ambiguïté qui demeurera pendant toute la période préparatoire ou antépréparatoire et qui continuera bien sûr pendant tout le concile ensuite. Donc l'intention de Jean XXIII semble bien être, au moins au terme, cette réunion de tous les frères séparés. Il est une autre intention, mais qui, je crois, est subordonnée à celle-ci, c'est promouvoir la collégialité. La préparation du concile, dit-il, ne sera pas l'œuvre de la curie romaine. Mais les prélats et savants du monde entier apporteront aux illustres prélats et consulteurs de la curie romaine leur appréciable contribution. Et cela encore fera resplendir la catholicité de l'Église. Le fait de réduire la curie romaine, donc un peu au silence, fera resplendir la catholicité de l'Église. Il s'agit donc pour Jean XXIII bien de promouvoir ce mouvement de collégialité, ne serait-ce que la réunion du concile, alors qu'il n'y a pas de nécessité d'urgence, est un acte de promotion de cette collégialité, et c'est ce qu'a très bien compris l'abbé Laurentin. Le Saint-Esprit a suscité un concile où la collégialité sera manifestée de façon plénière, solennelle et ainsi restaurée. Il s'agit donc de restaurer la collégialité au profit précisément de l'œcuménisme. Nous savons qu'un des obstacles à l'œcuménisme, justement, c'est l'autorité de Pierre, c'est le souverain, le primat du souverain pontife, et plus on élève l'autorité des évêques, et bien plus, au moins avec les orthodoxes, on a de chances même de favoriser la réunion. Et donc le concile, dans l'intention de Jean XXIII, est bien animé par un ressort que l'on peut dire charismatique, il est voulu pour un effort peut-être de conversion à l'échelle de l'Église, conversion intérieure des membres de l'Église, mais également pour cet aggiornamento, cette rénovation, cette adaptation dont on nous a parlé hier, adaptation de la vie, de la discipline aux conditions de notre temps. L'Église doit donc faire un effort collégial d'ouverture et d'adaptation au monde et à l'homme moderne. Mais toutefois, l'idée maîtresse, c'est le mot du père Congar, la téléfinalité du concile. La téléfinalité du concile, c'est bien la réunion avec les chrétiens séparés. Et donc voici nos évêques occupés à gouverner leur diocèse et qui sont tout d'un coup bien surpris et bien embarrassés, semble-t-il, par cette, non seulement par la réunion du concile, mais en plus par cette lettre qu'ils reçoivent du cardinal Tardini, dans laquelle eh bien, il leur demande de lui faire connaître leurs vœux, leurs suggestions. Et déjà quelques chiffres, il y aura un certain nombre de chiffres dans cette intervention, donnent une première impression de l'enthousiasme des évêques pour ce concile. Pour l'ensemble des consultations, car il n'y a pas que les évêques qui ont été consultés, également la curie, les membres, les congrégations romaines ont été consultées, les universités ont été consultées. Donc, sur l'ensemble, 2812 membres de la hiérarchie ont été consultés et seulement 2150 ont répondu, soit 76,4%. Pour l'ensemble, donc, des personnes consultées. Si nous considérons donc les seuls membres de la hiérarchie, dont je traite uniquement ici, il y a eu 2594 évêques ou prélats consultés et 1998 réponses, c'est-à-dire 77% d'évêques ont accepté de répondre. Ce n'est donc pas, peut-on dire, me semble, un véritable triomphe, puisque si les comptes sont bons, 596 évêques ou prélats ont choisi de demeurer à leur tour dans un impressionnante et devoto silencio. Certains pays, sans doute, n'ont pas pu se manifester. La Bulgarie, la Lituanie, la Roumanie, nous comprenons bien pourquoi. Ils n'ont pas pu répondre. Peut-être même n'ont-ils pas reçu la lettre du cardinal Tardini. Mais en revanche, nous avons un certain nombre de pays, de conférences épiscopales, qui ont donné des réponses communes. Donc, ça fait autant d'évêques qui ont, semble-t-il, répondu. Mais en fait, cela ne fait qu'une réponse pour 10 ou 15 évêques. Ou bien encore même des évêques qui ont répondu tout simplement pour dire qu'ils n'avaient rien à dire. Certaines réponses sont touchantes sous ce rapport. Voici rapidement une réponse. Par exemple, j'ai reçu en son temps la communication de votre éminence. Profondément touché de la confiance qui m'a été manifestée, je n'ai qu'à souhaiter pour l'instant le succès de cette œuvre si importante, unissant mes humbles prières à celles de l'Église entière. Bon, cela est comptabilisé comme une réponse. Bien. Donc ce silence, malgré tout, est assez impressionnant, effectivement. Cela semble manifester un peu d'empressement de la part des évêques à l'endroit de ce concile dont on leur parle pourtant. De quel sujet traitent ces réponses? Eh bien, ainsi que l'a indiqué le cardinal Tardini lui-même dans une conférence qu'il donne à la télévision française le 24 janvier 1960, « De omnibus rebus et quibus dam alis ». De tous les sujets et encore de quelques autres. Bien. En effet, il est clair, si nous lisons tous ces documents, tous les sujets ont été évoqués dans ces réponses, et c'est un foisonnement invraisemblable, mais très enrichissant, je dirais, très intéressant. Les évêques vraiment s'intéressaient à beaucoup de choses, ils s'intéressaient énormément à la vie de l'Église. Et le cardinal Montini lui-même évoquera dans ses lettres du Concile ce foisonnement qui n'a pas facilité, bien sûr, la tâche des commissions préparatoires. Le Concile s'est rassemblé sous le signe d'une grande liberté, liberté des propositions avant tout, invité, stimulé à se prononcer sur n'importe quel sujet susceptible d'intéresser la vie de l'Église. Il est clair que cette liberté a provoqué l'afflux de milliers de propositions, matériel immense, excellent, mais hétérogène et inégal. Donc nous avons 1998 réponses de la hiérarchie qui occupe 8 volumes, 8 forts volumes des Acta et Documenta publiés par la Polyglotte Vaticane. Et toutes ces réponses ont été étudiées par la commission ante-préparatoire. Elles ont été étudiées, coordonnées et réduites, synthétisées, si l'on peut dire, autant que possible sous forme de propositions. Toutes ces lettres, donc, ont été ramenées sous forme de brèves propositions d'importance et de valeur, bien sûr, très inégales. Les unes exprimant le vœu d'un évêque, l'autre d'autres des vœux de 100 ou 200 ou 300 évêques, etc. Et cela forme un ensemble de 9348 propositions. 9348 propositions qui ont été rassemblées dans les 1549 pages de 2 volumes intitulé Analyticus Conspectus Conciliorum et Votorum quae ab episcopis et prelatis data sunt. Et c'est là-dessus essentiellement que j'ai travaillé sur cet Analyticus Conspectus, les 9348 propositions qui ont été classées par chapitre, doctrine, etc. Et c'est un travail considérable qui a été fait là par la commission ante-préparatoire. Et déjà un premier regard. Bien sûr, le regard que nous porterons sur ces réponses sera très général. Bien sûr, je ne pourrai pas rentrer dans le détail de chacune des réponses. Ce serait très intéressant, mais trop long. Et donc, ces propositions ont été ordonnées par chapitre. Et déjà, un premier regard, un peu mathématique peut-être, peut provoquer chez nous peut-être un sujet d'étonnement, voire d'admiration. Nous sommes peut-être habitués a mal jugé l'épiscopat qui a fait le concile. Effectivement, son attitude pendant le concile a été, on peut en discuter, on est sommes ici pour en parler justement, mais en tout cas cet épiscopat avant le concile a été, semble-t-il, très très différent. Car en tête de ces propositions, quel est le chapitre qui regroupe le plus grand nombre de propositions? Eh bien, c'est le chapitre « Disciplina Cleri », la discipline du clergé, la vie du clergé, tout ce qui traite au clergé. C'est ce chapitre-là qui regroupe le plus grand nombre de propositions, avec, si vous voulez, 2090 propositions, donc sur 9348. Ensuite, c'est le « De cultu divino », donc la liturgie, si l'on veut. Ensuite, troisième position, c'est quand même « Doctrine capita », avec 1302 propositions. Si nous continuons notre petit examen, ensuite, quels sont les chapitres qui vont en décroissant? Le De sacramentis, De religiosis, De seminariis, De magisterio. Tout ce qui a trait vraiment à la vie essentielle, la vie intime, si l'on peut dire, de l'Église. Et enfin, se situent les 299 propositions du De ecumenismo. Et ensuite, 10 autres chapitres moins intéressants. Donc déjà, peut-être, vous voyez, avant même de rentrer dans le détail des propositions, eh bien, nous voyons que les évêques avaient le sens encore de l'Église. Ils ne sont pas encore devenus des rêveurs, des idéalistes, et ils souhaitent d'abord que le Concile traite du clergé, de la formation du clergé, de la vie du clergé, du ministère de ses prêtres, de l'apostolat, ainsi que tout l'ensemble de la liturgie. C'est là vraiment l'idée centrale, majeure de toutes ces réponses, le clergé et la liturgie. C'est précisément sur ce point-là que les évêques souhaitent un effort de discipline, d'adaptation, afin que l'Église puisse exercer concrètement sa mission dans un monde déchristianisé. Rapidement, le chapitre relatif à la doctrine et 1302 propositions rassemblées donc sous le titre Doctrine Capita tendent principalement à affirmer, confirmer, préciser, ordonner, synthétiser toute la doctrine traditionnelle, tant sur l'Écriture sainte que sur l'Église et les autres points de dogme et de doctrine, en intégrant l'apport des textes récents du magistère de Pie XII, principalement, bien sûr. Et certaines propositions, même, viennent demander l'élaboration d'un catéchisme universel révisé avec toute la doctrine qui était donc définie à la veille du Concile. Voilà ce que souhaitaient les évêques sous le rapport de la doctrine. Alors, si vous voulez, maintenant, nous allons parcourir rapidement, non pas tous les chapitres des réponses des évêques, mais je pensais qu'il était plus intéressant de comparer ces réponses, ces propositions, avec les textes promulgués par le Concile, pour voir, si vous voulez, si chacun de ces textes peut effectivement se prévaloir de demandes d'évêques. Le premier texte promulgué, nous le savons, c'est celui sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, et peut-être cela n'est-il pas innocent, d'ailleurs, que le premier texte soumis à l'approbation des évêques et promulgué ait été celui sur la liturgie, comme c'était ce chapitre-là qui rassemblait le plus de demandes de la part des évêques. A-t-on voulu leur donner satisfaction? Car effectivement, ce décret va donner satisfaction pratiquement à toutes les demandes des évêques sur la liturgie, ainsi que la réforme, que le nouveau code des rubriques qui est paru en juillet 1960. Est-ce qu'il est permis de penser à une captatio benevolentiae de la part du Concile afin que les évêques soient ainsi rassurés sur la confiance que l'on peut accorder, que l'on pouvait accorder alors au Concile? Ou est-ce que c'est peut-être au contraire, parce que la liturgie sera le sorte de bélier qui va servir à ouvrir une brèche par où pourront passer ensuite tous les mouvements de retour aux sources, mouvement biblique, mouvement œcuménique, mouvement patristique, etc. Je ne sais, mais on peut supposer bien des choses. Donc la liturgie, disions-nous, le culte divin, fait l'objet de 1464 propositions. On pourrait y ajouter d'autres propositions que l'on trouve dans les parties plus juridiques, du De Sacramentis ou même du De Lucis Sacris, ou bien des propositions dogmatiques sur le sacrement de l'Eucharistie, le sacrifice de la messe, la communion, et ainsi bien pratiquement toutes les questions relatives à la liturgie, au culte divin, que ce soit donc en dogme, en droit canon, liturgie ou pastorale, eh bien se ramènent finalement à 2749 propositions. Et donc c'est finalement la liturgie qui remporte le plus de suffrages, si l'on peut dire, dans les demandes de nos évêques. Et alors là, bien tout y passe, tout y passe. Toute la liturgie, sous tous ses rapports, les points importants ou des points plus minimes, la messe, l'office divin, le pontificat, le rituel, l'administration des sacrements, les sacramentaux, l'art sacré, le calendrier, tout est envisagé. Vraiment, les évêques sont descendus parfois dans tous les détails. Et tout fait l'objet de multiples demandes. Mais alors, on est surpris de voir que ces demandes ne sont pas motivées par un désir de retour aux sources, de retrouver la pureté primitive ou de se débarrasser d'ajouts tardifs, etc. Non, pas du tout. Pour les évêques, c'est un simple souci, semble-t-il, souci pastoral, de meilleure compréhension par le peuple, de participation plus fidèle, plus facile pour le peuple, d'adaptation aux habitudes, aux mœurs de l'époque et d'allègement. Voilà ce que souhaitaient les évêques en liturgie, simplification, alléger, pour adapter, pour que les fidèles comprennent mieux et puissent mieux participer à la liturgie. Visiblement, la liturgie était devenue, semble-t-il, pesante, c'est clair. La liturgie était devenue un poids pour nos évêques, ils n'en comprenaient peut-être plus très bien tout le sens, toute la signification. Il semble même qu'ils la considèrent, pour beaucoup d'entre eux, ils la considèrent indépendamment du dogme, comme un ensemble disciplinaire quasi indépendant du dogme, et elle ne leur semble plus précisément adaptée aux mentalités de leurs fidèles soumis à ce mouvement général de la modernité. Malgré les limites imposées par Pie XII dans Mediator Dei et même dans l'instruction du 3 septembre 1958, eh bien, nous voyons que même des évêques veulent aller beaucoup plus loin que ce que Pie XII interdisait, puisque 43 évêques, par exemple, traitent de la concélébration, 5 de la communion sub utraque specie, alors qu'une forte pression, très forte pression, se fait en faveur de l'introduction du vernaculaire, très forte pression de l'épiscopat en faveur donc de la langue vernaculaire. Grâce à Dieu, jusque-là, le canon de la messe était quand même exclu des vœux des évêques, mais pour tout le reste, la messe des catéchumènes, etc., l'administration des sacrements, les évêques souhaitaient justement que le vernaculaire soit permis. Donc toutes ces demandes se situent très logiquement dans la suite de ce mouvement liturgique inauguré par Saint Pie X, mais dont nous savons ce qu'il est devenu dans les années précédant le Concile. Voilà pour ce qui est de la liturgie. Ensuite, je n'examinerai pas tous les décrets car je ne regarderai que ceux que les plus importants. Le décret sur l'Église, Lumen Gentium, peut se prévaloir peut-être de 365 propositions. Ces propositions qui traitent de l'Église et qui avaient comme finalité, comme but de confirmer, de coordonner les affirmations des conciles de Trente du Vatican et d'intégrer la doctrine, notamment du corps mystique, enseignée par Pie XII. Voilà en gros ce que souhaitaient les évêques quant à l'Église. On sent deux mouvements assez forts dans le sens d'abord de la revalorisation de l'épiscopat. 34 propositions, dont l'une d'entre elles est soutenue par 80 évêques, souhaitent une revalorisation de l'épiscopat par une meilleure définition de ses compétences, de son autorité. Et également un autre mouvement, vous disais-je, donc en faveur de la restauration du diaconat, à cause de la pénurie des prêtres, un nombre important d'évêques, plus de 150 évêques, souhaitent une restauration du diaconat dans ses offices et sa forme primitive, avec la possibilité d'un diaconat permanent. Et d'y admettre, bien sûr, des hommes mariés, mais toutes les questions délicates relatives sur l'Église, relatives à la nature de l'Église, la constitution de l'Église, les rapports de l'Église et de l'État, hors de l'Église, pas de salut, toutes ces questions délicates font l'objet de demandes de confirmation et non pas de révision. Ainsi, par exemple, 125 évêques demandent une constitution apostolique sur l'Église en tant qu'elle est le corps mystique du Christ, unique dispensatrice de tous les moyens nécessaires au salut. Puisque nous parlons de l'Église, puisque c'est dans le schéma Lumen Gentium qu'il en sera parlé, parlons rapidement de la très sainte Vierge Marie. Plus de 600 évêques, la chose a été remarquée, plus de 600 pères demandent que le Concile parle de Notre-Dame, parle de la Vierge. La Mariologie des évêques est rassemblée en 59 propositions. 17 évêques s'opposent à toute nouvelle définition, bien sûr, mais à l'opposé, 55 demandent la définition de la maternité spirituelle, 23 celle de la royauté, 49 celle de la co-rédemption et 311 évêques demandent la définition de la médiation universelle de Notre-Dame. 311 évêques, c'est la proposition qui réunit le plus grand nombre d'évêques. Parmi les 9348 propositions, c'est celle-ci qui réunit le plus d'évêques. 311 évêques demandent que le Concile définisse la médiation universelle. Bon, nous savons ce qu'il en est devenu. L'œcuménisme, question clé, bien sûr, du Concile et de la période post-conciliaire, le décret donc Unitatis Redintegratio, eh bien, peut se prévaloir de ces 299 propositions sur l'œcuménisme, mais ces propositions sur l'œcuménisme n'ont pas du tout la même signification que celle que l'œcuménisme qui sera traité, défini par le schéma. Ces propositions, le ton général de ces propositions est plutôt prudent, réservé, voire parfois même méfiant. Il y a attention, certains parlent des dangers de l'œcuménisme. Tous sont d'accord, bien sûr, pour favoriser l'union, c'est évident, pour prier à cette fin, pour éviter les attitudes intolérantes, les attitudes difficiles, blessantes, mais toujours dans un esprit missionnaire. Nos évêques ont encore cette définition de l'œcuménisme qui est l'esprit missionnaire. Et toutes les propositions sont faites dans cet esprit, favoriser, bien sûr, le rapprochement, la réunion, mais dans un esprit missionnaire. Vous savez, bien sûr, ce qu'il en a été ensuite dans le décret du Concile, le décret Unitatis et Redintegratio. Les évêques, la question des évêques, bien sûr, intéressait nos évêques, c'est évident. Le décret Christus Dominus traite d'un sujet qui tient à cœur à nos évêques et on peut pratiquement, dans toutes les propositions, en réunir 1500 vœux qui traitent de l'épiscopat. Et que souhaitaient nos évêques par rapport donc à l'épiscopat? Eh bien d'abord des éclaircissements théologiques, une définition plus claire de l'épiscopat, d'où procède leur autorité, de qui procède leur autorité, la sacramentalité même de l'épiscopat. Donc d'abord une meilleure définition de l'épiscopat, ce que n'avait pas pu faire le Concile précédent, le Concile Vatican I. Ensuite, autre demande très pressante, les évêques demandent une capacité accrue d'exercer leur autorité dans leur diocèse. Ils veulent être les maîtres, les pasteurs, les chefs dans leur diocèse. Par exemple, 233 vota se retrouvent sous le titre des Maiores Potestate Episcopis Concedenda. Donc 233 propositions pour augmenter le pouvoir des évêques. Et quels sont les obstacles que les évêques voient à leur pouvoir? Bien sûr, il y a d'abord la centralisation, qui était peut-être effectivement devenue un peu exagérée, mais également, parmi leurs sujets, ils voient deux obstacles à leur autorité. D'abord, ce sont les religieux. Ce sont les religieux, puisque plus de 120 prélats souhaitent une révision du privilège de l'exemption, et plus de 250 souhaitent la diminution du privilège de l'exemption, voire même son abolition pure et simple. Fini. Plus de religieux exempts. Bien. Et ensuite, ce sont ces pauvres curés. L'inamovibilité des curés, semble-t-il, gêner nos évêques dans l'exercice de leur autorité. Et donc, plus de 130 évêques demandent la révision de l'inamovibilité des curés, et même 104 demandent son abolition pure et simple. Voilà. Ils souhaitaient donc pouvoir disposer de leur clergé sans être limités par cette inamovibilité des curés. Donc, ils souhaitaient bien un renforcement de leur autorité et de leur pouvoir. Et il est à noter que pour certains évêques, cette revalorisation de l'épiscopat est désirée effectivement pour des motifs œcuméniques, afin de favoriser le retour des orthodoxes. La formation des prêtres, le décret optatam tutsius ecclesiae. Mais là-dessus, je passerai très vite, car les vœux des évêques, 547 propositions des séminaristes, sont tout à fait classiques, tout à fait bonnes. Nos évêques souhaitaient bien que l'on continue à former les prêtres selon les recettes qui avaient fait leur preuve dans l'histoire de l'Église. Tout est simple, classique, il n'y a rien à dire de particulier. Ce sont malheureusement ces décrets qui ont répondu aux demandes des évêques et qui sont peut-être les meilleurs du Concile et qui ont été les plus mal appliqués ensuite, après le Concile. Les religions non chrétiennes, ceci est intéressant, qui donnera, donc c'est le décret, la déclaration Nostra Aetate, qui sera approuvée par 1763 pères conciliaires, eh bien, aucune proposition n'est faite à ce sujet. Aucune. Zéro. La question est à peine effleurée de loin dans le chapitre sur les missions, avec 12 propositions sur les missions en Afrique et 8 sur les missions en pays musulmans. C'est tout. Mais la perspective est toujours une perspective missionnaire, apostolique, animée par un désir de conversion. Et en tout cas, aucun évêque n'avait, semble-t-il, évoqué la question du judaïsme ou des rapports avec les juifs. Donc le décret Nostra Aetate est sorti d'autres cerveaux que de ceux de nos évêques. La liberté religieuse, Dignitatis Humanae. Dignitatis Humanae, eh bien, peut-être, si vraiment ils y tiennent, se prévaloir de 22 évêques qui avaient évoqué la question de la liberté de conscience et de culte. 22 évêques avaient évoqué la question, avaient dit qu'il faudrait en parler au Concile. Huit propositions, sont regroupées dans le chapitre sur les rapports de l'Église et de l'État sous le titre « De tolerantia ». La tolérance, 8 propositions. Donc les évêques souhaitent qu'on parle de la chose, que l'on établisse des normes claires, non pas seulement quant au fait, mais également quant au droit. Et la proposition la plus avancée est la 6e sur les 8. Elle émane de Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Et la proposition la plus avancée dans le sens de la liberté religieuse que demandait Mgr Charrière dans les pays catholiques. La liberté doit être accordée aux sectes acatholiques. Toutefois, si celle-ci outrage, insulte, infament en latin, l'Église catholique, l'État catholique doit, au titre de la foi catholique, prendre sa défense. Proposition de Mgr Charrière, qui est donc la plus avancée en matière de liberté religieuse. Le ministère et la vie des prêtres, eh bien, cette partie également, comme celui sur la formation des prêtres, est très, très, très édifiante, même je dirais, sur l'état d'esprit de l'épiscopat. Tout est envisagé quant à la vie des prêtres, quant à leur ministère, et il est édifiant de constater l'insistance de la hiérarchie sur les moyens classiques de la sanctification sacerdotale, confession, oraison, lecture spirituelle, visite au Saint-Sacrement, le rosaire, le détachement, l'obéissance, la pauvreté, etc., etc. 120 même prélats encouragent la vie commune. Donc tous les moyens classiques de la sanctification du clergé dans l'exercice de son ministère sont demandés, sont réclamés par l'épiscopat à la veille du concile. Il est à noter quand même, car tout n'est pas parfait peut-être, eh bien que sur la question du célibat, 167 évêques demandent la confirmation de la loi, allant même jusqu'à l'émission d'un vœu explicite le jour de l'ordination, mais 50 évêques proposent que cette loi soit révisée ou adaptée. S'il s'agit de réviser la loi du célibat, on ne voit guère en quel sens peut-être, sinon qu'une diminution. Et enfin, le dernier décret, les dernières constitutions votées, promulguées par le Concile, Gaudium et Spes. Eh bien, Gaudium et Spes peut se prévaloir de quelques murmures, disons, d'évêques, quelques réflexions sur les rapports entre l'Église et la science, l'Église et la société internationale. La doctrine sociale de l'Église, bien sûr, fait l'objet d'un certain nombre de propositions, mais il y a tout un chapitre qui, en tout cas, n'a pas été pris en compte par le Concile. C'est le chapitre « De erroribus damnandis », qui énumère pourtant 189 propositions demandant la condamnation de 69 erreurs. 69 erreurs depuis, pour la première, les adventistes du dernier jour, et la dernière étant l'utilitarisme. Et ainsi, par exemple, dans ces réponses des évêques, spontanées, non concertées, nous voyons 258 évêques demander la condamnation du communisme. Nous savons aussi ce qu'il en est advenu lors du Concile. Voilà un bref examen de ces propositions des évêques, classées par les décrets qui seront promulgués par le Concile. Alors, essayons maintenant peut-être de tirer quelques conclusions plus générales. Il y a sans doute, pour celui qui s'attendrait à trouver dans ces réponses les lignes de force de ce que sera le futur concile, un grand motif à déception, car effectivement, nous ne trouvons pas dans ces réponses des évêques, globalement bien sûr, eh bien ces lignes de force de ce que sera le concile. Ces réponses nous donnent beaucoup plus simplement une image très vivante, très concrète de l'Église, dans une période qui n'est pas la plus facile, la plus calme de son histoire. Comme le dira l'Osservatore Romano, elle présente un matériel doctrinal et pratique très vaste et de grande valeur qui constitue la pensée et le visage de l'Église. Si l'on veut savoir ce qu'était l'Église à la veille du Concile, eh bien ce sont ces réponses des évêques qui nous le disent. Les évêques ne sont pas encore, grâce à Dieu, plutôt ils sont encore des pasteurs. Ils se meuvent non pas dans des vieux schémas dépassés, comme on l'a dit, ni dans un monde d'idées toutes faites, qu'il va falloir plaquer à tout prix sur une réalité ignorée, mais ils se meuvent dans la réalité quotidienne de leur troupeau, de l'Église, qui est le royaume incarné de la grâce. Ils ne sont pas encore des hommes d'appareil, absorbés par la mécanique d'une pensée de commune obligatoire. Non, leur pensée se forge tout simplement au contact des réalités divines et des réalités quotidiennes de la vie de leurs prêtres et de leurs troupeaux. Et donc, une première conclusion que l'on peut-être tirer quand même, eh bien, c'est que nos évêques ont répondu, quoi qu'on en dise, ils ont répondu aux demandes officielles de Jean 23. Jean 23 voulait promouvoir l'accroissement de la foi, le renouveau moral de la vie chrétienne, l'adaptation de la discipline ecclésiastique. Eh bien, les évêques n'ont rien fait d'autre que de répondre à cette demande de Jean 23. Ils ont proposé les moyens qu'ils voyaient les plus aptes à obtenir cet effet. La plupart d'entre eux, c'est clair cela, ont ignoré, volontairement ou non, je ne le sais, ont ignoré la volonté œcuménique de Jean 23. Sans doute avaient-ils d'autres soucis plus importants dans leur diocèse. Et donc, l'épiscopat des années 60 m'apparaît comme un épiscopat très, très réaliste, tout simplement. Il croit à l'Église, il croit au corps mystique incarné, il croit à la sainteté de l'Église. Et ils veulent d'abord, en tout premier lieu, donner à leur clergé tous les moyens d'accomplir sa mission et d'abord de se sanctifier. Ils savent, ils connaissent les difficultés réelles de l'Église au XXe siècle. Et pourtant, certains ont considéré leur réponse avec dédain. Tous les commentateurs, tous ceux qui ont écrit des histoires sur le Concile, sur la préparation du Concile, voici quelques jugements portés sur eux. Insistance sur des problèmes canoniques ou administratifs de profil bas. Désorientation et embarras face à l'annonce de Jean 23. Solitude institutionnelle de Jean 23. Ensemble répétitif au sein duquel dominent les problèmes juridiques et administratifs avec la préoccupation de sauvegarde de la doctrine traditionnelle. Ce sont des critiques que l'on fait à nos évêques. Ceci, c'est Mauro Velati. Claude Setens, lui, parle du caractère décevant des propositions, peu susceptible de provoquer un véritable renouveau ecclésial. Mais a-t-on essayé ? Giuseppe Martina. On ne peut pas nier que le plus souvent, une vision objective de la situation manque aux évêques, que leurs vœux sont fragmentaires, incapables d'offrir un cadre d'ensemble, liés qu'ils sont par la crainte, la peur et un fort conservatisme. Quant au professeur Alberigo, dont on nous a parlé dans son histoire du Concile, d'un point de vue quantitatif, le conformisme l'emporte sur l'originalité. S'agit-il d'être original quand on est évêque ? Je ne le crois pas. Il reprend les distinctions entre les vœux canoniques et les vœux pastoraux, et bien sûr, ce sont les premiers qui dominent nettement, les vœux canoniques. À quoi reconnaît-on cela ? À leur vocabulaire juridique, hérité du code de 1917, à leurs énumérations souvent fastidieuses de suggestions multiples, exprimées point par point. Mais je pense que l'appréciation qui me plaît le plus, moi, est celle du professeur Kleiber, cité par Alberigo. Dans l'ensemble, les réponses des évêques donnent l'impression qu'il s'agit de préparer le Concile de Trente. Si seulement. Et non pas un concile œcuménique de toute l'Église du XXe siècle. Quel aveu, quand même, c'est vrai. Et qu'attendait-on des évêques ? Ils ont répondu aux questions que Jean XXIII leur avait posées. Ils n'attendaient du pape, finalement, que deux choses. D'abord, qu'il les confirme dans la foi. Et je crois que c'est une attente légitime, et ensuite qu'ils poursuivent, effectivement, et achèvent le mouvement d'adaptation des lois canoniques, disciplinaires et liturgiques inaugurées par ses prédécesseurs. Voilà donc une première conclusion que l'on peut tirer de l'examen de ces réponses des évêques. Une deuxième conclusion, eh bien c'est, comme je pense, nous l'évoquions rapidement, c'est le succès du mouvement liturgique. Ça, c'est clair. Le grand vainqueur de la période antépréparatoire, c'est le mouvement liturgique. Et on devine déjà cette tension qui va se discerner de façon très nette au cours du Concile, tension entre le mouvement liturgique et un autre mouvement dont nous avons senti également le progrès et le succès relatif, c'est le mouvement marial. Ces deux mouvements vont s'affronter au cours du Concile, on le sent déjà dans ces réponses des évêques. Le cardinal Frings lui-même a noté la chose en 1961, donc dès le début du Concile, en disant que notre siècle est caractérisé par deux mouvements charismatiques, mais qui semblent d'une certaine manière s'opposer l'un à l'autre, et effectivement ont été et sont encore considérés comme très opposés. Et quelles sont, pour le cardinal, les raisons de cette opposition ? Voici ce qu'il dit. La piété liturgique est objective et sacramentelle. La piété mariale est subjective et personnelle. Curieux, quand même, chez un conseiller du pape, que cette distinction entre la liturgie et la doctrine, la dévotion mariale, qui serait donc purement subjective, personnelle, donc émotionnelle, si l'on peut dire, hein. Et sous ce rapport, le jugement de Étienne Fouilloux me paraît beaucoup plus vrai, beaucoup plus juste. C'est que le mouvement marial, quant à lui, cherche à développer l'originalité catholique, fade, face au monde extérieur. Tandis que les mouvements d'aggiornamento, dont le mouvement liturgique, cherchent à revenir aux sources du christianisme, afin de mieux répondre aux attentes de la modernité. Entre un mouvement de contre-réforme comme le mouvement marial et des mouvements d'aggiornamento qui, plus ou moins confusément, veulent en finir avec elle, toute synthèse était illusoire. Et effectivement, le mouvement liturgique, tous les mouvements d'aggiornamento sont davantage enracinés dans les pays du Rhin et tendent plutôt à réduire les différences alors que le mouvement marial, quant à lui, tend plutôt, il est enraciné lui davantage dans les pays latins, lui tend plutôt à affirmer et à creuser peut-être davantage les différences. Et après la liturgie, troisième conclusion, bien c'est la question de l'épiscopat qui préoccupe, donc nous l'avons noté déjà, le plus nos évêques. Ils souhaitent avec force donc que la place et le rôle de l'évêque soient redéfinis au sein du mystère de l'Église. Et en cela, il me semble, ils manifestent justement leur sens de l'Église et la conscience de la mission de l'évêque, de leur mission. Ils veulent avoir les moyens d'être les vrais pasteurs de leur diocèse et ils souhaitent s'arracher peut-être à une centralisation devenue parfois pesante et néfaste. Mais il est à noter que, sauf un petit nombre, nos évêques n'aspirent nullement à un agir collégial permanent. Ils désirent avoir les moyens de gouverner leur diocèse et non pas de gouverner l'Église tout entière. Et enfin, dernière remarque que l'on peut faire, eh bien, c'est que le motif œcuménique de ces tendances existe sans doute chez quelques-uns, mais non chez le plus grand nombre. Au contraire, les observations sur l'œcuménisme sont souvent associées aux préoccupations missionnaires, à l'expansion globale du christianisme et à sa véritable universalité. Donc nos évêques sont traditionnels en doctrine, ils sont attachés aux récentes explicitations doctrinales de Pie XII et ils sont, il est vrai, volontiers progressistes en discipline et en liturgie. Et ils ne craignent pas même de franchir donc certaines des bornes imposées par le même Pie XII dans Mediator Dei et l'instruction du 3 septembre 58. Mais, à bien considérer la lettre de leur réponse, on ne trouve chez eux ni l'annonce des grands thèmes ecclésiologiques qui agiteront le Concile, ni de réelles demandes portant, par exemple, sur la liberté religieuse. Ils n'ont pas de volonté réformiste du cadre général de l'Église en elle-même ou de ses rapports avec le monde ou avec les autres religions. Ils sont sûrs de l'Église. Ils n'ont pas encore appris à douter de sa sainteté. Et pourtant, ces mêmes évêques donneront massivement leur voix à des textes souvent contraires, voire contradictoires, à leurs vœux primitifs. Comment s'est opérée cette conversion des évêques, c'est une autre histoire que je ne vous raconterai pas ici. J'ajouterai simplement, car nous ne pouvons pas ignorer la chose, que si la grande majorité des évêques était assez indifférente aux élans charismatiques œcuménistes de Jean XXIII, voire même, pour une part d'entre eux, assez hostile à ce rassemblement conciliaire jugé inutile et dangereux, cette volonté réformiste et œcuméniste existait. Bien. Que ce soit en matière d'ecclésiologie ou d'œcuménisme, mais chez un tout petit nombre. Ce groupe, que l'on peut appeler, je crois, un groupe d'initiés, faisait chorus avec les élans prophétiques du cardinal Montini, et ils avaient bien saisi, quant à eux, la volonté de Jean XXIII. Elle était la leur depuis de longues années, et ils s'occuperont très activement de la réaliser. Et nous avons appris à les connaître, après, pendant et depuis le Concile. Quelques noms. Mgr Alfrinck, Mgr Weber, grand ami de Mgr Spadafora, Mgr Charu, Mgr Suenens, Mgr Lercaro, les cardinaux Döpfner, König et Léger, ainsi que le patriarche Maximos IV et quelques autres. Si j'avais le temps, je vous lirai bien quelques extraits des réponses de ces initiés, mais je crois que le temps est écoulé et donc il faut que je me taise.
Merci.